Guerre et paix, deuxième partie, chapitre 4, scène 11. Le prince André avait eu à peine le temps de tourner les yeux d'un autre côté que le comte Bennigsen entra précipitamment et, le saluant d'un signe de tête, passa dans la cabine en donnant des ordres à son aide de camp. Il avait précédé l'empereur pour prendre quelques dispositions et le recevoir chez lui. Tchernychev et Bolkonski sortirent sur le perron. Le souverain descendait de cheval. Il avait l'air fatigué et la tête inclinée en avant. On voyait qu'il écoutait avec ennui les observations que lui adressait Paolucci, avec une véhémence toute particulière. Il fit un pas en avant pour y couper court, mais l'Italien, rouge d'excitation et oubliant toute convenance, le suivit sans s'interrompre.
« Quant à celui qui a conseillé d'établir ce camp, le camp de Drissa,
disait-il, pendant que l'empereur montait les marches de l'entrée, les yeux fixés sur le prince André, qu'il ne parvenait pas à reconnaître.
« Quant à celui-là, sire !»
répéta Paolucci d'un ton désespéré, sans pouvoir s'empêcher de continuer.
« Je ne vois pas d'autre alternative pour lui que la maison jaune ou le gibet. »
Sans prêter la moindre attention à ses paroles, l'empereur, qui avait enfin reconnu le nouveau venu, le salua gracieusement.
« Je suis charmé de te voir, »
lui dit-il.
« Va là-bas où ils sont tous réunis et attends mes ordres. »
Le baron Stein et le prince Pierre Mikhailovitch Volkonski le suivirent et les portes du cabinet se refermèrent sur eux. Le prince André, profitant de l'autorisation impériale, se rendit avec Paolucci, qu'il avait déjà vu en Turquie, dans la salle des délibérations. Le prince Volkonski, chargé alors des fonctions de chef d'état-major auprès de Sa Majesté, apporta des cartes et des plans, et, après les avoir étalés sur la table, formula successivement les questions sur lesquelles l'empereur désirait avoir l'avis du conseil. On venait de recevoir la nouvelle, reconnue inexacte plus tard, que les Français s'apprêtaient à tourner le camp de Drissa. Le premier qui éleva la voix fut le comte Armfeld. Il proposa, afin de parer aux difficultés de la situation, de réunir l'armée sur un point indéterminé entre les grandes routes de Pétersbourg et de Moscou, et d'y attendre l'ennemi. Cette proposition, qui ne répondait guère à la question posée au conseil, n'avait évidemment d'autre but que de prouver que lui aussi avait son plan combiné à l'avance, et il saisissait la première occasion pour le faire connaître. Soutenu par les uns, attaqué par les autres, ce projet était du nombre de ceux que l'on forme, sans tenir compte de l'influence des événements sur la tournure de la guerre. Le jeune colonel Toll le critiqua avec chaleur, et, tirant de sa poche un manuscrit, il demanda la permission d'en faire la lecture. Dans cet exposé, très détaillé, il proposait une combinaison toute contraire au plan de campagne du général suédois et de Pfoul. Paolucci l'attaqua et conseilla un mouvement offensif qui mettrait fin à l'incertitude et nous tirerait de ce grand traquenard, ainsi qu'il appelait le camp de Drissa. Pfoul et son interprète Voltzogen avaient gardé le silence pendant ces discussions orageuses. Le premier se bornait à laisser échapper des interjections inintelligibles et se détournait même, parfois, d'un air de dédain, comme s'il voulait faire bien constater qu'il ne s'abaisserait jamais à réfuter de pareilles sornettes. Le prince Volkonski, président des débats, l'interpella à son tour et le pria d'exprimer son avis. Il se contenta de lui répondre qu'il était inutile de le lui demander, car on savait sûrement mieux que lui ce qui restait à faire.
« Vous avez, »
dit-il,
« le choix entre la position si admirablement choisie par le général Armfeld, avec l'ennemi sur les derrières de l'armée, et l'attaque conseillée par le seigneur italien, ou bien, ce qui serait encore mieux, une belle et bonne retraite. »
Volkonski, fronçant les sourcils à cette boutade, lui rappela qu'il lui parlait au nom de l'empereur. Pfoul se leva aussitôt et reprit avec une excitation croissante.
« On a tout gâté, tout embrouillé. On a voulu faire mieux que moi. Et maintenant, c'est deux rechefs à moi qu'on s'adresse. Quel est le remède, dites-vous? Je n'en sais rien. Je vous répète qu'il faut tout exécuter à la lettre, sur les bases que je vous ai précisées. »
s'écria-t-il en frappant la table de ses doigts osseux.
« Où est la difficulté? Elle n'existe pas. Sornette, jeu d'enfant !»
Et, se rapprochant de la carte, il indiqua rapidement différents points, en démontrant au fur et à mesure qu'aucun hasard ne saurait ni déjouer son plan, ni annuler l'utilité du camp de Drissa, que tout était prévu, calculé à l'avance, et que si l'ennemi le tournait, il courrait nécessairement à sa perte. Paolucci, qui ne parlait pas l'allemand, lui adressa quelques questions en français. Comme Pfull s'exprimait fort mal dans cette langue, Wolzogen vint à son secours et traduisit, avec une extrême volubilité, les explications de Pfull, destinées uniquement à prouver que toutes les difficultés contre lesquelles on se heurtait dans ce moment provenaient uniquement de l'inexactitude apportée à l'exécution de son plan. Enfin, semblable au mathématicien qui dédaigne de faire à nouveau la preuve d'un problème qu'il a résolu et dont la solution lui paraît incontestable, il cessa de parler et laissa le champ libre à Wolzogen, qui continua à exposer, en français, les idées de son chef en lui adressant de temps à autre un
« N'est-ce pas ainsi, Excellence ?»
Pfull, échauffé par la lutte, lui répondait invariablement, avec une irritation toujours croissante,
« Mais cela s'entend, il n'y a pas la matière à discussion. »
De leur côté, Paolucci et Michaud attaquaient Wolzogen en français, Armfeld en allemand, et Toll expliquait le tout en russe au prince Volkonski. Le prince André observait et se taisait. De tous ces hauts personnages, Pfull était celui qui éveillait en lui le plus de sympathie. Cet homme qui poussait jusqu'à l'absurde la confiance en lui-même, irascible mais résolu, était le seul, entre eux tous, qui ne désirait rien pour lui-même, qui ne détestait personne et qui cherchait simplement à faire exécuter un plan fondé sur une théorie qui était le résultat de longues années de travail. Sans doute, il était ridicule et son persiflage désagréable au dernier point, mais il inspirait, malgré tout, un respect involontaire par son dévouement absolu à une idée. On ne sentait pas non plus dans ses discours cette espèce de panique que ses adversaires laissaient entrevoir, en dépit de leurs efforts pour la dissimuler. Cette disposition générale des esprits, dont le Conseil de 1805 avait été complètement exempt, leur était inspirée aujourd'hui par le génie reconnu de Napoléon et se trahissait dans leurs moindres arguments. On croyait que tout lui était possible. Il était capable même, disait-il, de les attaquer de tous les côtés à la fois, et son nom suffisait à battre en brèche les raisonnements les plus sages. Pfull seul le traitait de barbare, à l'égard de tous ceux qui faisaient de l'opposition à sa théorie favorite. Au respect qu'il inspirait au prince André, se joignait un vague sentiment de pitié, car à en juger d'après le ton des courtisans, d'après les paroles de Paolucci à l'empereur, et surtout d'après une certaine amertume d'expression dans la bouche du savant théoricien, il était évident que chacun prévoyait, et qu'il pressentait lui-même, sa disgrâce prochaine. Il cachait, on le voyait, sous une ironie dédaigneuse et acerbe, son désespoir de voir lui échapper l'occasion unique d'appliquer et de vérifier sur une grande échelle l'excellence de son système et d'en prouver la justesse au monde entier. La discussion dura longtemps. Elle devint de plus en plus bruyante. Elle finit par dégénérer en attaque personnelle et il n'en résulta aucune conclusion pratique. Le prince André, en présence de cette confusion des langues, de cette foule de projets, de propositions, de contre-propositions et de réfutations, ne put s'empêcher de s'étonner de tout ce qu'il entendait dire. Pendant son service actif, il avait souvent médité sur ce qu'on avait convenu d'appeler la science militaire, qui, selon lui, n'existait pas et ne pouvait exister, et il en avait conclu que le génie militaire n'était qu'un mot de convention. Ses pensées, encore indécises dans son esprit, venaient de recevoir, pendant ces débats, une confirmation éclatante, et elles étaient devenues pour lui une vérité sans réplique.
Comment existerait-il une théorie et une science là où les conditions et les circonstances restent inconnues et où les forces agissantes ne sauraient être déterminées avec précision? Quelqu'un peut-il deviner quelle sera la position de notre armée et celle de l'ennemi dans 24 heures d'ici? N'est-il pas arrivé maintes fois, grâce à un cerveau brûlé bien résolu, à 5000 hommes de résister à 30 000 combattants, comme dans le temps à Schöngraben, et à une armée de 80 000 hommes de se débander et de prendre la fuite devant 8 000, comme à Austerlitz. Et cela parce qu'il avait plu à un seul poltron de crier « Nous sommes coupés ». Où peut donc être la science, là où tout est vague, où tout dépend de circonstances innombrables, dont la valeur ne saurait être calculée en vue d'une certaine minute, puisque l'instant précis de cette minute est inconnu. Armfeld soutient que nos communications sont coupées. Paolucci assure que nous avons placé l'ennemi entre deux feux. Michaud démontre que le défaut du camp de Drissa est d'avoir la rivière derrière nous, tandis que Pfuhl prouve que c'est là ce qui fait sa force. Toll propose son plan, Armfeld le sien. L'un et l'autre sont également bons et également mauvais, car leurs avantages respectifs ne pourront être appréciés qu'au moment même où les événements s'accompliront. Tous parlent des génies militaires. En est-ce donc un, celui qui sait approvisionner à temps son armée de biscuits et qui envoie les uns à gauche, les autres à droite? Non. On ne les qualifie ainsi de génies que parce qu'ils ont l'éclat et le pouvoir, et qu'une foule de pieds plats, à genoux comme toujours devant la puissance, leur prête les qualités qui ne sont pas celles du génie véritable. Mais c'est tout l'opposé. Les bons généraux que j'ai connus étaient bêtes et distraits, Bagration par exemple. Et Napoléon cependant l'a proclamé le meilleur de tous. Et Bonaparte lui-même. N'ai-je pas observé à Austerlitz l'expression suffisante et vaniteuse de sa physionomie? Un bon capitaine n'a besoin ni d'être un génie, ni de posséder des qualités extraordinaires. Tout au contraire, les côtés les plus élevés et les plus nobles de l'homme, tels que l'amour, la poésie, la tendresse, le doute investigateur et philosophique, doivent le laisser complètement indifférent. Il doit être borné, convaincu de l'importance de sa besogne, ce qui est indispensable, car autrement il manquerait de patience. Se tenir en dehors de toute affection, n'avoir aucune pitié, ne jamais réfléchir, ne se demander jamais où est le juste et l'injuste. Alors seulement il sera parfait. Le succès ne dépend pas de lui, mais du soldat qui crie « Nous sommes perdus » ou de celui qui crie « Hurrah ». Et c'est là, dans les rangs, là seulement, que l'on peut servir avec la conviction d'être utile.
Le prince André se laissait aller à ses réflexions lorsqu'il en fut brusquement tiré par la voix de Paolucci. Le conseil se séparait. Le lendemain, à la revue, l'empereur lui demanda où il désirait servir. Et le prince André se perdit à tout jamais dans l'opinion du monde de la cour en se bornant tout simplement à désigner l'armée active au lieu de solliciter un emploi auprès de Sa Majesté.